RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Alors figurez-vous qu'il y a certains psys qui vont jusqu'à dire que l'amour est une maladie. Alors franchement, je ne le pense pas. Je crois au contraire que l'amour, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Je parle de l'amour sous toutes ses formes d'ailleurs. Et puis la meilleure preuve, c'est que lorsqu'on regarde ce que la haine peut provoquer, pas de doute, l'amour, c'est une valeur positive. En revanche, la passion, ce n'est pas de l'amour. C'est une sorte de drogue qui s'empare de nous, qui nous rend différents, qui nous rend même parfois très stupide. Et je vous propose qu'en compagnie de Bruno Martin, on regarde si la passion elle est plutôt positive ou si au contraire la passion serait toxique. Et comme je sais que vous êtes nombreux à avoir vécu ou même vous êtes peut-être en train de vivre une passion, eh bien je vous invite à témoigner en nous appelant au 3216. Et puis après 15h20, notre sportif du jour sera une sportive. Il fallait bien une femme et pas n'importe laquelle. C'est Sarah Pitkowski qui sera avec nous, cette ancienne tennis Woman. Vous la connaissez sans doute puisqu'elle est depuis très longtemps sur RMC également. Et si vous voulez profiter de sa présence pour lui poser une question, vous appelez dès à présent le 3216. Nous aurons un petit coup de cœur pour un livre peut-être intéressant à lire comme ça pendant les vacances pour mieux comprendre les hommes et mieux comprendre les femmes. C'est Valérie Lamour qui sera avec nous pour en parler. Notre fil d'Ariane nous proposera un allaitement pour adultes. Et c'est Rachel qui a testé ce rabbit de Clara Morgan. Bruno Martin, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous.
Oui, on confond trop souvent passion, amour, sentiment amoureux, affection. Là aujourd'hui, on va évoquer la passion, hein. C'est cette sorte de, je dis bien, de drogue qui s'empare de nous à tel point qu'on sait plus trop bien réfléchir.
Ah oui, disons que l'amour a des intensités différentes. La passion, on la rencontre évidemment au départ d'une grande histoire d'amour. Elle est pas fatale, la passion. J'allais dire, c'est pas
et évident. Ça se termine pas toujours par une grande histoire d'amour. Oula, d'ailleurs.
Non. C'est une des phases possibles de l'amour au début de l'amour. Voilà, et c'est vrai que ça modifie beaucoup les sécrétions hormonales du cerveau, notre état général. C'est un véritable état modifié de conscience, la passion.
Et alors, est-ce que c'est toxique ?
Ça peut le devenir. On va voir de quoi elle est faite, peut-être tout au long de l'émission. Et il y a des ingrédients de la passion qui peuvent devenir extrêmement toxiques.
Donc, qu'est-ce que vous donneriez déjà comme premier conseil ? Vous allez en donner plein.
Moi, j'aime bien la phrase que vous avez employée dans le livre qu'on a écrit, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est-à-dire avoir un certain nombre de repères et de références qui nous font vivre une passion avec un minimum de lucidité, on va dire. Parce que la passion, ça peut nous halluciner un bon moment.
Hein. Stéphane commence avec nous, je vous l'avais dit. Vous êtes nombreux à avoir vécu ou à vivre des passions, alors forcément on va avoir beaucoup d'appels. Bonjour Stéphane.
Bonjour Brigitte et bonjour Bruno.
Bonjour.
Oui, donc voilà, donc moi j'ai eu une passion qui s'est avérée destructrice. J'avais rencontré un homme, donc plus jeune que moi, et cette personne, je m'en suis aperçu après, était carrément mythomane, manipulateur, et j'étais tellement dans l'euphorie, comme vous disiez, la passion, tout ça. Tout le monde m'avertissait, tout le monde le voyait, moi je le voyais pas.
Non, mais on voit rien quand on est...
Donc, oui. Voilà, et ça a duré 6 mois, et puis des petites choses arrivaient petit à petit, des gros mensonges, vraiment le gros mythomane, quoi. Et ça m'a mis un peu la puce sur l'oreille, et puis après il commençait à raconter nos aventures sexuelles à des amis, machin. Et là, ça commençait à me titiller un peu, je disais non, là c'est pas possible, quoi, c'est pas vrai, quoi. Et je me suis quand même réveillé au bon moment et j'ai mis un terme direct, quoi. Même si ça m'a fait mal ou ça, dans un sens, ça m'a un peu, comment dire, déstabilisé. Ça m'a fait perdre confiance en moi et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre avec quelqu'un pour une longue relation, quoi. Donc ça m'a vraiment détruit, quoi. Et bon, maintenant j'ai rencontré la personne avec qui je suis, qui m'a restabilisé, qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a redonné goût à la vie. Et c'est vrai que je suis passé dans une phase où c'était vraiment très dur. Et si vous voulez, c'est comme si je reproduisais ce que cette personne m'avait fait. Je refaisais la même chose, quoi. Manière de, comme si c'était une vengeance. Et ça a été très dur, quoi. Heureusement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a remis un peu sur le rail et qui m'a fait voir que tout le monde n'était pas pareil, que tout le monde était différent et que j'étais tombé sur la mauvaise personne, quoi, qui m'a fait reprendre connaissance à moi.
Oui, mais ce qui vous a fait douter, c'est que cette mauvaise personne, comme vous dites, ben, au début, vous l'avez trouvée totalement extraordinaire, merveilleuse.
Tout à fait,
oui, mais c'est quand on est passionné, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et donc, vous avez perdu confiance dans votre capacité à juger des autres, quoi.
C'est ça. Et puis, faire confiance à la personne que j'ai rencontrée, avoir une relation durable, voilà, quoi. Pour moi, c'était un échec, quoi. Passé deux mois, ça je change, quoi. J'avais peur de me lancer parce que il y avait toujours cette image de l'ancienne personne qui était derrière moi et ça m'a rattrapé et c'est fou, quoi. J'étais même à un point d'aller voir un psychologue pour m'aider parce que c'était vraiment très difficile.
Pourquoi pas? Mais je crois, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Bruno, mais je pense que on a tous plus ou moins eu des passions dans la vie et je dirais que, bah, tant mieux parce que c'est aussi, faut avoir vécu au moins une fois une passion pour comprendre les autres. Mais je trouve que ça arrive quand même toujours à des moments particuliers. Je pense, Stéphane, le moment où vous avez fait cette rencontre, bah, c'était peut-être un moment où vous aviez besoin de qu'il se passe quelque chose dans votre vie.
Moi, c'est ce que, oui, je pense exactement la même chose au même moment. Et je me disais, bon, il y a certains moments dans notre existence où on a besoin d'une histoire, de remplir quelque chose d'important pour nous. On attend un espèce de prototype de vie en commun. Et là, on est ouvert à la rencontre, ou alors on vit une période intense de notre vie, aussi bien dans le bas que dans le haut. Voilà. Et ce moment-là, on va faire crédit. Moi, j'appelle ça faire crédit. Hein. J'en vois tous les jours des chagrins d'amour. J'en soigne. Au départ, sur 3 ou 4 critères, vous faites crédit sur 500 000 critères que vous n'avez pas encore vérifiés. Et là, vous tombez amoureux de votre histoire d'amour, de votre envie et de votre rêve. Et évidemment, les a priori, les quelques a priori sur lesquels vous vous fondez, au bout d'un moment, sont accompagnés du reste. Et les a posteriori ne correspondent plus fatalement aux a priori. Et là, vous tombez de haut. Vous dites, tiens, on m'a trompé, etc. Mais je pense que c'est votre vision qui vous a trompé au départ. Vous n'avez pas voulu observer les petits cartons rouges.
À tel point
présents.
Que Stéphane avait pourtant autour de lui des amis qui lui disaient bien, mais vous n'entendiez rien parce que vous étiez vraiment dans votre rêve, dans votre fantasme, hein, de vivre quelque chose d'unique, extraordinaire.
Et bon, surtout que j'étais dans la passion, et puis surtout, c'était quand même une personne mythomane et manipulatrice, parce qu'à tel point qu'il avait fondé des projets, vivre ensemble, avoir un appartement ensemble. Donc voilà, tout était fait pour vraiment me charmer, m'enrober seulement, voilà, quoi. J'ai quand même une force de caractère qui a fait qu'au bout de moment, au bout de 6 mois, quand même, je me suis quand même réveillé et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Surtout à partir du moment où on commence à raconter la vie privée à des amis, quoi. Je veux dire, ce qui se passe à la maison, dans un lit, ça se raconte pas, quoi. Je veux dire, c'est entre nous, ça ne va pas sortir, quoi. Et là, ça m'a fait tic, j'ai fait non, s'il est capable de ça, de quoi il est capable, quoi.
Vous vous êtes réveillé quand même assez vite, hein, finalement, Stéphane.
Oui, quand même. Bon. Oui.
Donc, vous pouvez quand même vous faire assez confiance. Hein.
Oui, je pense que bon, maintenant, en ayant rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc voilà, ça fait quand même, une certaine confiance. Il m'a amené quelque chose, il m'a amené de sérénité, parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux, assez impulsif, et lui, le contraire de moi. Donc, ça fait que, voilà, comme on dit souvent, les contraires s'attirent. Et donc, lui, il m'amène une certaine stabilité, une sagesse, et il me permet de regarder, de me poser et de regarder comme il faut, quoi, les choses, quoi.
Eh bien, merci de votre témoignage, en tout cas, Stéphane. Merci beaucoup.
Brigitte, hein. Merci Bruno.
Au revoir, merci.
Stéphanie, maintenant, qui témoigne sur une passion qui, visiblement, n'était pas non plus très positive. Bonjour, Fanny.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
Eh bien, on va dire que j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai cru à l'être idéal. Et je me suis passionnée de cet être idéal, c'est-à-dire je ne voyais que ce que j'avais envie de voir. Mais surtout, je le pensais comme moi, j'espérais qu'il soit. Donc, j'ai fait...
Oui, c'est ça, c'était votre âme sœur, votre double.
J'étais jeune, j'ai fait toutes les bêtises possibles et inimaginables. Pour ce garçon, je me suis fâchée avec beaucoup de personnes de ma famille parce qu'ils me disaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais pour moi, non. C'était eux qui n'allaient pas. Et quand je suis tombée je suis tombée sur la réalité et que je l'ai pris en pleine face. Ça m'a complètement détruite au niveau des hommes, des sentiments que je pouvais avoir, etc.
Parce que vous étiez aussi tombée sur quelqu'un de pas très positif, c'est ça ?
Ah non, bah non, il était positif, lui, hein, il n'y avait pas de souci. Hein. C'est juste que je le voyais comme j'avais envie qu'il soit, sauf que...
D'accord, mais c'était pas un manipulateur, c'était...
Non, c'était quelqu'un qui avait son caractère,
bon.
Sauf que je voyais pas
mais alors,
les
quoi,
signes...
En quoi ça a été si destructeur pour vous, cette passion? Parce que...
Ah, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté mes études, je me suis lancée à corps perdu dans cette relation, et j'en ai oublié qui j'étais.
D'accord, il n'y avait plus que ça, plus que lui qui comptait.
Il n'y avait plus que lui qui comptait, ce que lui voulait, ses amis, sa famille. Et je me suis complètement coupée de la réalité de ce qui pouvait m'entourer. J'ai vraiment tout arrêté pour lui. Mais j'avais une carrière bancaire qui m'attendait. J'avais réussi des concours, etc. J'ai tout arrêté pour aller bosser au McDo, quoi.
Oui.
Pour pouvoir
le suivre.
Être avec lui.
Oui, bien
sûr. Ben voilà. Il m'avait demandé de ne pas partir. Je ne suis pas partie. Et puis, ça s'est terminé. Et les langues se sont un peu déliées. Il s'est avéré qu'il n'était pas très honnête dans ce qu'il faisait, qu'il m'avait trompé, etc. Et que moi, je suis tombée des nues. Mais vraiment des nues.
Voilà.
Donc, j'ai mis beaucoup de temps à refaire confiance.
Mais vous savez que je vous coupe, mais on entend que toute bonne relation doit être donnant-donnant, et que dans ce cas-là, ça n'était absolument pas votre vie de l'époque. Et je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on n'arrive pas à se fixer au moins cette petite règle du jeu dès le départ, donnant-donnant dans des monnaies différentes. Ça, je le dis souvent, mais il faut que ce soit équilibré professionnellement, familialement, amicalement. Ça doit être comme ça. Et sur le plan sentimental, tendre et génital, ça doit être comme ça. Et tout ce qui ne l'est pas est voué à un échec cuisant, quoi qu'il arrive. Ça, c'est qu'on le veuille ou non.
Vous aviez quel âge, Fanny ?
Ah, j'étais jeune, j'avais 17 ans.
Oui, 17 ans, on peut comprendre aussi qu'on se laisse...
Voilà. Je me suis fait avoir une seconde fois.
Ah, ben
enfin,
ça, c'est pas terrible. Non, mais
non.
17 ans, on imagine que vous aviez qu'une envie, c'était couper avec les parents. Et c'était une manière de tout couper, je dirais presque même vos racines. Enfin, il y a dû y avoir quelque chose.
C'était le premier, c'était tout. Enfin, pour moi, c'était ma lune, c'était mon soleil. Voilà, tout tournait autour de lui. Mais par contre, voilà, de cette passion que j'ai considérée comme destructrice, parce qu'effectivement, quand je suis revenue sur Terre, ça a été violent, ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai refait plus ou moins les mêmes erreurs, mais voilà, j'étais encore un peu jeune. Maintenant, c'est différent, je prends les choses...
Donc finalement, les passions étaient constructrices, malgré tout, puisque
tout
vous
fait.
En avez tiré quelque chose.
Ah bah écoutez, tout à fait, puisque maintenant j'ai rencontré quelqu'un où on s'écoute davantage déjà et on écoute l'autre.
Et c'est plus équilibré.
Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est ça qui fait qu'après, ça peut devenir une passion, mais peut-être une passion plus raisonnée, raisonnable, où chacun a sa place.
Mais de toute façon, Fanny, quand une passion est trop à sens unique, parce qu'on entend bien, vous étiez vous 100% passionnée et votre compagnon était peut-être bien avec vous, mais n'était pas aussi passionné. Je pense que une passion, si elle n'est pas vécue quand même à égalité, c'est difficile qu'elle débouche sur quelque chose de solide après. Et c'est vrai que parfois, quand on est dans la passion, on donne tout à 100% et on se rend même pas compte que l'autre, finalement, n'est pas au diapason. Et c'est pour ça que ça peut pas déboucher sur autre chose qu'une rupture, une passion, si elle n'est pas partagée. Enfin,
oui,
il me semble. Hein.
Et puis elle est remplie de symptômes, hein, la passion. Hein, c'est un moment à la fois extraordinaire en intensité positive, mais ça peut l'être aussi en émotion ultra négative. Hein, c'est rempli d'angoisse quand l'autre ne montre pas son amour sous une forme ou une autre, lorsqu'il est absent, lorsqu'un signe n'est pas au rendez-vous. C'est rempli de manque et de dépendance au bout d'un moment, parce que le cerveau sous passion, étudié avec les moyens modernes, nous montre qu'il est très très proche d'un cerveau sous effet de drogue, hein, avec les avantages que ça peut avoir à court terme et les gros inconvénients à long terme.
Absolument. Merci beaucoup Fanny. Vous continuez vous aussi à nous appeler au 3216 si vous voulez nous raconter votre passion, positive ou négative, bien sûr. Alors l'onde positive du jour, évidemment il me fallait donner une définition de l'amour. Vous savez qu'on peut en faire beaucoup de définitions de l'amour, mais j'aime bien celle-ci. Alors on va, il faut quand même le dire, je crois Bruno Martin, on va s'attacher à quelqu'un parce que il ou elle nous parle de nous. J'entends par là que cette personne va nous faire du bien, alors parfois en nous rassurant, parfois en nous excitant, parfois parce qu'elle correspond à nos critères d'attachement. Bon, mais ensuite, il va s'agir de s'aimer vraiment. Et je crois que là, il faudra comprendre et sentir que l'autre est différent, mais que c'est pas contre nous, hein, mais que tout simplement l'autre est différent. Et seulement après, on pourra vraiment parler d'amour. Sinon, on peut parler de passion, on peut parler d'attirance, on peut parler de tout ce qu'on veut. Mais l'amour, c'est quand même aussi fait de différence.
Absolument. Différence. C'est quelques grands points communs qui nous rappellent nous-mêmes. Pour ça qu'on dit que l'amour joue un double jeu avec J-E.
Absolument, exactement. On se retrouve dans quelques instants avec vos réactions au 32-16 et nous accueillerons Valérie Lamour. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, la L'amour et vous. Boulanger, directeur, chauffeur de taxi, ingénieur ou routier, tous chez Brigitte sur RMC.
Nous évoquons la passion aujourd'hui avec Bruno Martin qui est avec nous, psychosomaticien et auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent aux éditions Albin Michel. Alors évidemment, il faut que je vous la pose cette question, Bruno Martin. Est-ce que les femmes seraient plus passionnées que les hommes?
Elles sont bien plus prédisposées à l'être que les hommes, ça c'est certain. Parce qu'elle tourne dans le sens d'abord sentimental avant de rentrer au niveau de la sexualité. Elles sont plus prédisposées à avoir envie d'une grande histoire amoureuse et sentimentale. Mais bon, les hommes tombent largement dans le panneau aussi,
je pense,
quoi qu'il arrive.
Oui, hein. Et on va en avoir un dans un instant. Vincent va témoigner de sa grande passion. Valérie Lamour est avec nous. Alors vous êtes coach, Valérie Lamour.
Enchantée.
Et puis vous avez sorti un livre. Alors a priori, on a l'impression que c'est un livre un peu facile aux éditions Marabout. En fait, non. Il y a plein de très très bons conseils pour que justement, en tant qu'homme, en tant que femme, on se comprenne mieux. Ça s'appelle Adam et Ève au pays des gourdes.
Tout à fait, des gourdes, oui.
Avec plein, enfin c'est vraiment, on le feuillette, on est, il y a plein de bons conseils, hein, Bruno Martin.
Oui, à l'intérieur du livre, on s'aperçoit que les conseils s'appuient sur des choses, j'allais dire, extrêmement vraies et sérieuses. Parce qu'on pourrait effectivement avoir une petite peur au départ quand on parle de gourde, d'un petit livre comme ça. Mais franchement, les conseils sur lesquels ça s'appuie sont justes et sont traités d'une manière plutôt drôle, ce qui fait que ça passe encore mieux.
Oui, il y a beaucoup d'humour. Mmh. Il y a des phrases aussi comme ça, hein, vos paroles de coach, Valérie Lamour. Alors j'en ai repéré une, ça me fait rire, mais c'est assez juste. L'homme ne parle pas longtemps, sauf lorsqu'il a une solution à proposer.
C'est cela, oui.
Oui, c'est assez juste, hein, Bruno.
Oui, nous, quand c'est pas rationnel, ça nous intéresse moins. Hein.
Il parle au départ, donc parce qu'il sait qu'on a besoin nous d'entendre ces mots. Mais c'est vrai qu'une fois que la relation est construite, il va s'éteindre tout doucement jusqu'à effectivement une communication très faible. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes qui me consultent en tant que coach sont bien finalement, mais pleure entre guillemets, c'est-à-dire il me parle pas, il m'écrit plus de textos, il ne me voit pas, il est pas dans la communication. Et en fait, lui, il aime sa compagne, sa femme, etc. Mais il va utiliser ce mode.
À quoi bon perdre du temps
Quel est l'intérêt en fait pour lui? Il se dit, enfin, je parle au bout de quelques années, quel est l'intérêt pour lui de vraiment converser avec celle qu'il aime? Il n'y voit plus l'intérêt.
Parce qu'il est dans la propriété. L'homme est dans la propriété. Moi, je le répète à longueur de temps, qu'ils sont donc juste locataires, qu'il faut payer un loyer tous les mois par la communication, l'amour, le sentiment, les attentions, tout ce que vous voulez. Mais l'homme rentre dans la propriété. Il a fait tout un rituel, toute une parade pour vous déclencher l'amour. Ça a marché. Il a dit qu'il vous aimait.
Nous, on fait pareil avec le sexe. Une fois qu'on vous a passé la corde au cou, c'est terminé.
Brigitte, c'est dans le sens inverse aussi.
Je parle en général.
J'ai les anciens dans le sens inverse également, parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui se font attraper sexuellement, dans le sens où, pour la première fois, se mettent à jouir. Et j'ai des filles, mais décomposées, quoi. Les pauvres, elles ont découvert l'orgasme avec XY compagnon. Et du coup, l'ocytocine s'est mis en... L'ocytocine, c'est cette hormone d'attachement qu'on connaît bien. Chez nous, malheureusement, elle arrive immédiatement, alors que vous, elle est en amont de la relation. Et du coup, elles sont attrapées. Et d'ailleurs, les macros de l'époque savaient très bien comment mettre une fille dans la rue. Ils savaient qu'il fallait d'abord qu'ils l'attrapent sexuellement, qu'elle découvre le 8e paradis ou le 7e ciel ou le 40e ciel, je sais pas. Et au bout d'un moment, tout doucement... Il finissait par la mettre là où il voulait. Et c'était par ça qu'il commençait. C'est-à-dire c'était de très très bons amants. Alors, je ne sais pas, j'ai pas fait de statistiques sur ce qui se passe aujourd'hui dans les rues, Mais en tout cas, c'était une réalité de l'époque.
Mais aujourd'hui quand même, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au départ, les hommes pensent qu'il faut vous donner beaucoup de sentiments, d'attention, etc., pour attirer un lien, et voilà. Et qu'une fois que c'est obtenu, effectivement, les choses sont posées, c'est fait, le contrat est posé, on n'y revient pas. Mais c'est vrai ce que dit Brigitte aussi, c'est que secondairement, les femmes abandonnent aussi le sexe qu'elles ont trouvé très bien au départ, parce qu'elles mettent ça dans le package de la séduction.
Est-ce qu'elles abandonnent en premier lieu, alors ça c'est toujours sur un panel de 1000 personnes, hein, c'est pas moi auteur qui parle ou coach, c'est vraiment par rapport à une expérience de 10 ans, c'est la fellation. Ah. Et c'est bien dommage parce que très présente parce qu'elles obtiendraient beaucoup plus si elles étaient un petit peu plus actives. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'elles vont, enfin elles vont faire grève gentiment, hein, c'est-à-dire qu'au départ elles vont raccourcir en termes de durée, puis après elles vont plus le faire du tout. Ou exceptionnellement. C'est dommage.
Donc, quand une femme veut quelque chose, il faut qu'elle refasse une fellation, c'est ça?
Si elle veut obtenir quelque chose à un certain moment donné, oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose à faire.
Oui, entre autres.
Qu'en pensez-vous?
Parce que vous voulez fellation et en plus autre chose.
J'ai vu que c'était quelque chose qui vous préoccupait beaucoup.
Non, parce que j'ai des hommes en séance, j'ai 40% d'hommes. Et ils me disent, effectivement, ils se plaignent. Je n'ai plus ma fellation chérie. Donc le rapport.
Et après, on s'étonne qu'ils aillent voir les putes.
Et heureusement, quand vous allez voir tous les clics des sites en live de porno machin, ils ont, vous savez ce qu'ils ont? Ils ont exactement ça et l'anal. Tout ce qu'ils n'ont plus. Pourquoi ils vont là?
Exactement.
Pourquoi ils vont là?
Vous dites aussi qu'une femme, elle fait une fellation ou elle accorde une sodomie quand elle est très amoureuse, quand elle est allée très très loin.
Mais Bruno, essayez la sodomie, vous m'en parlerez. C'est pas une anecdote, hein.
Ah non, mais bon, j'ai déjà essayé, mais bon, si vous voulez...
C'est
la relation qui arrive quand on est très, très amoureux. La femme s'abandonne quand elle est très amoureuse. Et c'est vrai que quand il y a moins d'amour, vous devez un petit peu freiner là-dessus. Et l'homme le conçoit aussi comme ça.
L'homme aussi, je vais vous dire un truc, au niveau du cunnilingus, il est complètement nul. Hein. Moi, je vois beaucoup de femmes qui me disent « mon homme n'a pas de bouche, il n'a pas de doigts ». Comme ça, c'est clair, il a qu'un kiki. Ah non, je dis non. Le cunnilingus.
Bon, attendez. Vous avez compris, en tout cas, ça s'appelle Adam et Ève au pays des gourdes, aux éditions Marabout.
Ça déclenche la passion,
c'est
là.
C'est cash. Absolument. Puis chacun en prend pour son grade, hein. Je peux citer une autre phrase qui me fait beaucoup rire. Une femme ment pour protéger l'autre, un homme ment pour se protéger. Voilà. On est bien dans les rapports homme-femme, hein, Bruno Martin. C'est ce que vous défendez sans arrêt. On va revenir sur la passion avec Vincent. Alors Vincent, vous avez connu une passion, mais un vrai coup de foudre romantique, il me semble. Bonjour Vincent.
Bonjour Brigitte et bonjour à vous, à vos deux invités.
Bonjour.
Donc oui, juste c'était pour un petit peu contraster avec les premiers auditeurs où j'avais l'impression que la passion finalement était quelque chose qui s'avérait unilatéral. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que l'autre dupe l'autre.
Bon. C'est vrai, c'était ça les deux premiers témoignages en effet. Vers
pour moi, la passion est quelque chose d'extrêmement unilatéral. C'est-à-dire que c'est une pulsion de vie qui est vouée à la mort. C'est quelque chose de, au sens romantique et poétique du terme, quelque chose qui, par une magie quelconque et certaine à la fois, réunit deux êtres qui à un moment donné vont se liguer et vont vouloir conquérir le monde, quitte à se marginaliser et aller vers quelque chose de complètement fou et d'insensé. Je pense aux Amants du Pont Neuf, à La Balade Sauvage, à des films comme ça. Mmh. Et pour moi, la passion, c'est vraiment ça. Et j'ai pu la vivre. C'était mon tout premier amour, où effectivement, on se scarifiait ensemble, on s'écrivait des lettres d'amour de sang, on fuguait ensemble.
Vous voulez dire que vous preniez du sang, votre sang, pour écrire une lettre d'amour?
Des lettres. On se scarifiait, on se coupait, on se tailladait la peau et on s'écrivait des lettres en sang. Bon, on avait 16 ans, 17 ans et c'était pour nous une marque ultime d'amour.
Elle vous appelait mon Dracula?
Non, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, d'extrêmement sanguin.
Dans l'imaginaire, le sang, c'est on est du même sang, donc on ne fait que plus qu'un, hein, bien sûr.
Tout à fait. Donc mon témoignage, il se portait vraiment là-dessus. Il n'y avait aucune manipulation de ma part vis-à-vis d'elle, ni d'elle vis-à-vis de moi. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre de la... On voulait...
À la vie, à la mort, oui.
Voilà, à la vie, à la mort, sortir du monde, être tous les deux contre le reste du monde et quitte à mourir, quoi. Il y avait cet esprit-là et mourir ensemble. Enfin, en tout cas, il y avait...
Mais en même temps, c'est très adolescent, hein, ce que vous racontez, Vincent. Je pense que c'est pas ce qu'on vivrait si on vit une passion aussi forte que celle que vous avez vécue quand on a 30, 50 ou 70 ans. Hein. C'est très adolescent. Mais en même temps, c'est beau, c'est chouette. Enfin, je suppose que vous en gardez finalement un très beau souvenir.
Bah, c'est un souvenir extrêmement marquant. Alors évidemment, j'ai connu après des relations beaucoup plus soutenues. Je me suis tempéré, tout ça. Mais c'est quelque chose qui restera gravé à vie. Et même dans le monde littéraire, quand on lit un peu les auteurs allemands du 18, 19e, même la musique classique, dans Schubert, dans des choses comme ça, ça revient beaucoup, cette idée de la passion absolument incandescente, quelque chose qui... Mais en tout cas, rien qui soit de l'ordre de la manipulation, ni de vouloir duper l'autre.
Voilà. Oui, vous êtes investis tous les deux. Ça a duré combien de temps, cette passion?
Ben, ça a duré 2 ans et demi jusqu'à ce que nos familles arrivent à nous arracher l'un de l'autre et voilà. Après, ça a été un arrêt brutal.
Les passions durent rarement beaucoup beaucoup plus, hein, parce que de toute façon économiquement le cerveau n'est pas capable de résister à tous les symptômes de la passion, que ce soit les intensités, les insomnies, le manque d'appétit, etc. Hein. On n'est pas fait pour vivre une passion linéaire toute sa vie, sinon on meurt beaucoup assez rapidement.
C'est pour ça que je dis que c'est une pulsion de vie qui est, je pense, vouée à la mort. Voilà.
C'est joli ce que vous dites, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup de ce témoignage, en tout cas Vincent. Merci.
Je vous en prie. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
On attrape notre fil d'Ariane. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup parce que c'est pas la première fois que vous nous parlez de ces femmes qui allaitent autre personne que leur bébé. Hein, ça vous passionne, ça, il me semble.
Ça m'intrigue, ça me surprend parce que là j'ai découvert récemment qu'il y avait carrément des mouvements sur Internet d'allaitement pour adultes, des personnes qui aiment tellement allaiter ou du moins qui sont nostalgiques de l'allaitement de leur enfant, qui cherchent à tout prix à pouvoir continuer à allaiter sans être nourrice pour autant d'un autre bébé, mais allaiter un adulte. Et là, vous avez, je vous en parle aujourd'hui parce qu'on en reparle en ce moment dans la presse anglaise, c'est Jennifer Mulford, 36 ans, qui a eu un enfant il y a 20 ans, et elle adorait l'allaiter, et elle voulait trouver une solution pour continuer. Elle a commencé évidemment à passer des petites annonces sur ces sites spécialisés, mais aucune réponse n'est arrivée. Et de fait, elle a eu une idée incroyable. Elle s'est dit « Ah, mais je me rappelais quand j'étais au lycée, il y avait un jeune garçon qui adorait les poitrines opulentes. » Et donc,
peut-être, peut-être que si je m'adresse à lui, alors il sera intéressé. Et effectivement, Brad a été tout de suite intéressé, et depuis, elle l'allaite. Mais ce qui paraît terrible, c'est que vous savez très bien que 20 ans après avoir accouché, spontanément, on ne produit pas de lait. Donc, elle doit suivre toutes sortes de traitements, d'avoir des pompes à lait, etc., pour pouvoir assouvir ce désir, ce fantasme d'allaiter celui qui est devenu son compagnon aujourd'hui. Et je parle de cela aussi.
Oui, je suis d'accord avec vous, Bruno Martin. Bruno Martin a levé les yeux au ciel, pauvre. Mais oui, je crois que oui, on peut.
C'est embêtant quand on a des dents, hein, l'allaitement, hein.
Oui,
en général.
Oui. C'est évidemment pas très agréable, j'imagine. Mais je parle aussi de ce sujet-là, mais là sur un ton beaucoup plus sérieux, Brigitte. Ouais. Parce qu'en faisant mes investigations, je suis tombée sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Les femmes et les hommes ne peuvent pas vivre sous le même toit s'ils n'ont pas de liens familiaux. Et pour contourner l'interdiction de mixité, eh bien, il y a une règle tout à fait surprenante qui a été mise en place. Les femmes doivent allaiter, c'est vrai, les femmes doivent allaiter les hommes qu'elles souhaitent fréquenter 5 fois au moins pour qu'elle ne soit pas molestée ou lapidée. Enfin, c'est terrible. Et cette loi date de mars 2009. Ça remonte à cette histoire de cette veuve de 75 ans qui avait été condamnée à 6 mois de prison et 40 coups de fouet pour avoir été retrouvée chez elle avec deux hommes qui venaient simplement lui livrer du pain. Et dès lors, ils se sont dit, faisons une règle pour la vie. Et alors, ce qui est aberrant là-bas, ce qui soulève le plus de questions, c'est non pas de se dire, pour ne pas être torturé, eh bien, tu devras allaiter des hommes. Non, là-bas, on s'interroge plutôt de savoir, comment il faut prendre la tétée directement au sein ou l'extraire et donner le lait ensuite aux hommes. Voilà ce qui fait parler et réagir et créer évidemment la polémique.
C'est un symbole de filiation, choses comme ça. Parce que pour retrouver une signification dans ce comportement, c'est pas très évident.
Donc on est vraiment dans deux dimensions différentes. D'un côté, chez nous occidentaux, cette espèce de fantasme, de retour au sein, et de l'autre, encore une.
Oui, mais ce qui semble quand même une sorte de comme ça de mouvance actuelle, c'est qu'on remet la femme dans une position de mère de plus en plus. Et moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Bon, évidemment, en Europe, on n'est pas extrémiste comme en Arabie Saoudite, mais on entend de plus en plus des injonctions. Il faut que les femmes allaitent.
En même temps, ça produit un orgasme l'allaitement. Hein.
Ça peut aller jusque-là.
Moi, quand j'allaitais mes enfants.
Il y a des femmes pour qui c'est franchement désagréable, donc je vois pas pourquoi on va dire aux femmes qu'il faut absolument allaiter. Chacune est libre.
Bien sûr.
Et cette liberté des femmes, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu en danger. Voilà. Moi, c'est ce que m'évoque ce que vous venez de raconter.
Car ceux qui ont des tout petits seins, les pauvres.
Il peut y avoir la production de lait malgré tout. Hein.
Bah oui, ça
mais au départ, je croyais qu'on était reparti, vous savez, dans les nourrices morvandelles. Moi, je suis issu de la région du Morvan, où il y avait vraiment des professions pures et dures de nourrices qui se louaient à longueur d'année à des familles riches et qui allaitaient les enfants de ces familles-là en profession. Eh oui, comme vous dites, une vraie.
On se retrouve dans un instant et vous pouvez bien sûr réagir au 3216.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Est-ce que vous avez déjà été passionné? N'hésitez pas, en tout cas, si c'est le cas, à nous appeler au 3216. Nous sommes avec Bruno Martin, psychosomaticien. Et puis Valérie Lamour est venue nous rejoindre également avec ce guide aux éditions Marabout, Adam et Ève au pays des gourdes, où vous donnez en effet plein de conseils aux hommes, aux femmes, pour mieux se comprendre, puisque il semble bien que nous ne parlons pas la même langue. Mais ça, je crois, Bruno Martin, ça fait longtemps que vous nous le dites et redites.
Et oui, on a fait pas mal d'études sur le sujet et il faut bien admettre qu'on n'a pas exactement le même mode d'expression ni d'écoute.
Les mêmes besoins aussi et les mêmes attentes. On est vraiment très différents sur le besoin et sur l'attente. On est très différents.
C'est vrai, Valérie. Alors il y a une phrase qui est de circonstance, donc je suis obligée de la dire. Hein. C'est vous qui le dites, Valérie Lamour. Un homme peut être envahi d'émotions à la vue d'un match de football, mais beaucoup plus rarement dans sa relation affective. C'est un peu dur ça quand même, non?
Il est moins enclin à l'empathie immédiate, la compassion immédiate. C'est quelque chose de l'ordre de la protection. Je ne sais pas pourquoi, c'est un constat, mais c'est vrai qu'une femme va tout de suite dans les neurones miroirs, ce qu'on appelle neurones miroirs, elle va tomber tout de suite en lien, en fait, elle va se mettre en lien directement, naturellement. L'homme, moins.
Oui. Si, il va se mettre en lien avec l'équipe de France demain soir.
Ah bah oui, par contre. Mais alors là, par contre, la tête sur le ballon, je voudrais qu'on me l'explique, parce que c'est vrai que je ne vois pas, moi, je n'arrive pas
Bruno,
à comprendre.
Expliquer à Valérie.
Mais ça, c'est très, très ancien.
C'est la meute.
Bah oui, mais le sport a remplacé tout ce que la chasse et la guerre apportaient auparavant.
C'est-à-dire
l'esprit de clan, la stratégie, c'est tout ce qui lié au lancer d'objets et à la précision dans le lancer d'objets. Tout ce qu'on retrouvait.
Donc le ballon, c'est le mammouth, quoi.
Oui, c'est ça. C'est la lance qui va pulvériser le mammouth dans le filet du goal de foot. Voilà, mais on retrouve exactement les mêmes ingrédients que dans la guerre et la chasse. Sauf que là, bon, on n'en meurt plus.
C'est mieux. Finalement, c'est beaucoup mieux.
Et oui, c'est ça l'esprit de
Donc, vive le foot.
Bah, le foot et le reste, parce que moi je préfère
le rugby,
rugby,
vous êtes un ancien rugbyman.
Je soutiens l'équipe de France de foot quand même.
C'est encore plus viril.
J'espère bien. Alors, Nathalie est avec nous pour témoigner de son coup de foudre. Enfin, elle était avec nous, mais visiblement on l'a perdue. C'est pas grave, on va revenir sur les hommes et les femmes. Bruno Martin, vous dites souvent que les femmes vont d'abord partir sur du sentiment pour ensuite arriver au sexe, alors que les hommes, c'est le contraire. Je crois que vous êtes tout à fait de cet avis
tout
aussi,
à fait,
Valérie Lamour.
Ouais. En fait, au départ, ils sont plus appelés par le désir et ils mettent un temps assez long à voir la différence.
À dire je t'aime.
En tout cas, à savoir s'ils sont amoureux. Parce qu'au départ, ils sont pris par cette pulsion de désir et on ne peut pas obtenir un je t'aime, vrai je t'aime, parce qu'eux-mêmes mettent un certain temps à savoir. Est-ce que c'est parce que je la désire énormément? Enfin, c'est incroyable, voilà, elle me tourne la tête, etc. Ou est-ce que je l'aime, en fait, vraiment? Parce que ça, ils ont un temps assez, on va dire, assez long. Il faut donc respecter cette attente. C'est pour ça que coucher très rapidement ne permet pas à cet homme-là de faire monter cette fantasmatique. Alors moi, je ne dis pas les choses, j'impose rien. Je constate simplement que quand ils sont dans ce désir quand même de chasse ou de conquête, qui est un peu, on parlait du foot là aussi, cette espèce de virilité de conquête, quand on leur offre cette possibilité-là aussi en amour, ça leur donne le temps de monter en sentiment, ce qui fait que l'énergie qui est en bas monte au cœur, puis au cerveau. C'est quand même top.
Oui. On peut faire comme ça, mais le principal, la clé absolue, moi je pense que c'est dans considérer que c'est acquis ou non. Tant que vous êtes fuyante et gibier, même si vous avez donné beaucoup de sexe, au contraire, on va dire, bah, c'est un objet exceptionnel, celle-là, non seulement elle est belle et intelligente, mais en plus elle baisse comme une déesse, eh bien, ce qui va faire qu'on va s'attacher ou ne pas s'attacher, c'est est-ce qu'elle est acquise ou non? Et tant que vous nous montrez un tout petit degré de c'est pas gagné, il va falloir que tu te battes,
ouais.
Là vous pouvez accrocher l'intérêt et voir les sentiments d'un homme.
C'est ça.
Voilà. Mais de là à dire faut coucher le premier jour, le deuxième, le troisième.
Non, ça n'a pas.
Ça, je sais rien. Il faut que vous vous montriez sous votre meilleur jour. Puis en plus on est des adultes. Après on fait effectivement comme on le sent, comme on veut. Mais est-ce que on voit en vous quelqu'un qui est totalement acquis, complètement prostré devant nous. Et alors là, effectivement,
j'ai une petite métaphore très courte par rapport à ça. C'est je dis aux femmes, restez une antilope, ne devenez pas l'escalope dans l'assiette. L'escalope à la crème, même si elle est très bonne, quoi. Essayez le plus possible d'être cette antilope. J'ai failli faire un truc sur
antilope, ça rime avec salope. Ben on a tous compris.
On tout
alors là, franchement, Brigitte, je vous le laisse. Parce que là, du coup, c'est, bref. Et du coup, voilà.
À mon avis, une antilope salope, elle est sûre de le garder, son mec.
Je crois.
Mais oui, bien sûr. Et puis en plus, si elle fait bien l'escalope à la crème, alors là.
Alors là, c'est le pompon.
Alors là, il n'y a aucun problème. Nous avons Bruno qui a retrouvé une ancienne connaissance et qui est peut-être en train de tomber amoureux. Bonjour Bruno.
Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors voilà, donc moi c'est pas très compliqué, mais aujourd'hui bon, j'ai une vie de famille, bon, j'ai un enfant. Ça fait 10 ans que je suis avec on est passé avec ma compagne. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc, j'ai revu une connaissance, et ça peut être dangereux, et aujourd'hui, bon, je suis pas comme ça d'habitude, et en réalité, elle partage aussi, les mêmes sentiments que moi, ce que j'ai envers elle, envers moi, Et c'est vrai que voilà, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que c'est mieux de mettre un terme au début ou je sais pas.
C'est une connaissance avec laquelle vous n'avez jamais eu de relation sexuelle pour l'instant.
Non, jamais.
D'accord. Mais vous rendez bien compte que vous êtes avec des sentiments qui sont en train de grandir. Alors si vous passez à l'acte, il y a deux solutions. Soit c'est un fiasco total et puis bon bah vous pourrez sans problème retourner auprès de votre compagne actuelle et puis tourner la page, soit ça sera bien et à ce moment-là ben vous serez dans un dilemme qui ne fera que commencer hein. Donc ouais. le risque il faut que vous arriviez à l'évaluer parce que si vous êtes vraiment très très bien dans votre relation, si vraiment tout va bien, qu'est-ce que ça va vous apporter de prendre ce risque? C'est ce qu'il faut que vous arriviez à calculer. Mais ça, on peut pas répondre à votre place.
Ouais, c'est sûr.
Mais des personnes qui vous attirent et qui peuvent vous déclencher un petit rêve passager, il y en a plusieurs dans la vie. Mais tout dépend de votre niveau d'attachement. Et
moi, généralement, non. Je suis quelqu'un qui, quand même, je sais ce que je veux. Je veux dire, je suis pas. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai vu cette personne, bon, ça m'a fait quelque chose. Mais les circonstances ont fait que je.
Alors Bruno, ce qui peut vous aider, c'est de comprendre ce que cette femme a réveillé en vous, parce que c'est pas, c'est forcément quelque chose que votre compagne n'avait pas réveillé. Mm. Qu'est-ce qu'elle a réveillé en vous et est-ce que c'est nécessaire?
Oui, on partage les mêmes envies en fait, au niveau professionnel autant que sportif, etc.
Et c'est des choses que vous ne partagez pas avec votre compagne.
Non, pas tellement.
Voilà. Et c'est certainement actuellement des choses qui sont devenues très importantes pour vous. Et c'est pour ça que ça a réveillé ces sentiments.
Tout à fait, c'est ça.
Et est-ce que je peux me permettre de vous demander, comme ça fait 10 ans que vous êtes paxé, Bruno, c'est ça?
Non, 6 ans.
6 ans. Ouais. Est-ce que vous étiez dans une sorte de confort un peu monotone, un peu tranquille, et que finalement.
Pas du tout, non.
Non, il y avait toujours de l'adrénaline dans votre couple.
Ouais, tout à fait. Ouais.
D'accord.
Mais je crois que c'est tout simplement.
C'est justement moi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que.
Je gère. Et justement, j'ai peut-être pas ce que je recherche en fait, je sais pas.
En tout cas, ça vous apporte autre chose à ce moment précis de votre vie. Alors après, on peut arriver à éveiller cette partie de soi sans forcément se mettre en danger avec une relation sexuelle qui va être de plus en plus passionnée. C'est gérable aussi. Maintenant, c'est à vous d'envisager ce que vous êtes capable aussi de partager, parce que si vous allez plus loin avec cette femme, ça sera forcément beaucoup plus compliqué et ça peut mettre vraiment en danger votre relation actuelle. Donc, c'est peut-être Bruno l'occasion aussi, hein, je crois, d'aller en parler à un thérapeute. J'imagine Bruno Martin, quand quelqu'un, par exemple comme Bruno, vous êtes tous les deux des Bruno, alors c'est un peu complexe, mais quand quelqu'un comme Bruno vient vous voir en une séance, vous arrivez à l'aider à trouver sa réponse, parce que c'est lui qui doit de toute façon trouver sa réponse.
Oui, il faut faire un petit bilan de ce qu'on a et de ce qu'on espère. Et la diversité a toujours été stimulante, hein, il faut se le dire. Hein. Mais dans 5 ans, quand il aura fait le tour de la nouvelle personne et qu'il lui manquera quelque chose et qu'il verra quelqu'un avec cette chose, je veux dire, au bout d'un moment, on ne fait que recycler, répéter. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est peut-être intéressant de savoir ce qu'on a et puis bon de remplir ce qu'il nous faut en plus de différentes manières, peut-être par un moment avec cette femme s'il le veut, mais vous verrez que de toute manière c'est peut-être un leurre.
Merci Bruno, on se retrouve tout de suite après les infos. Merci beaucoup Valérie Lamour, je rappelle le titre de votre livre Adam et Ève au pays des gourdes aux éditions Marabout. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous.